Ça vous a pas rendu de bonne humeur, ben je suis désolé, je savais pas, c'est ça. Je saurais pas quoi mettre. C'était Pharrell Williams et sa chanson Happy.
C'est vrai que c'est une chanson à la bonne humeur, contagieuse, comme vous, cher Mathieu. Alors, allons-y avec la portion culturelle. Quel film mérite l'Oscar? Parce que c'est dimanche, la soirée des Oscars. Seul, il y en a 9 en tout. 9 longs métrages qui pourraient obtenir dimanche l'Oscar du meilleur film. Même si chacun d'entre eux ferait un lauréat honorable, certains suscitent un engouement plus fort auprès de nos journalistes. Pour chaque titre, il mesure les forces et les faiblesses et comment ces films s'inscrivent dans l'ère du temps. On y va avec Call Me By Your Name. Pour le long-métrage de Luca Guadagnino, inspiré du roman d'André Aciman, est tout simplement l'une des œuvres cinématographiques les plus accomplies de la dernière année. Les artisans de ce film sont parvenus à traduire le passage du premier amour de façon délicate, juste et sensible. En empruntant le point de vue d'Elio, remarquable Timothée Chalamet, le récit aborde aussi les contradictions d'une étape charnière de la vie d'un garçon, ayant déjà un pied dans l'antichambre du monde des adultes, sans avoir tout à fait quitté encore celui de l'adolescence, à la fois beau et bouleversant. Contre, même s'il le mériterait, il serait étonnant que Call Me By Your Name reparte avec l'Oscar du meilleur film. En revanche, il pourrait bien obtenir l'Oscar du meilleur scénario adapté, surtout depuis le prix attribué par la Writers Guild Association. Alors, c'est ici un texte de Marc-André Lucier. Et je ne lis pas tout, mais je vous lis l'essentiel. Et dans une portion intitulée Parce qu'on est en 2018, Marc-André Lucier écrit: Certains spectateurs ont eu du mal à accepter l'idée qu'un adolescent de 17 ans, interprété par un acteur qui en avait 20 au moment du tournage, s'engage dans une histoire d'amour avec un homme de 7 ans, son aîné, même s'il s'agit d'une relation on ne peut plus consentante. De là à nuire aux chances du film, pas vraiment. Darkest Hour. Pour Darkest Hour raconte la même histoire que Dunkerque ou Dunkirk de Christopher Nolan. Ça dépend si on le dit en français ou en anglais. Je vais le dire en français, Dunkerque, mais de l'intérieur. C'est un défi supplémentaire que les artisans du film relèvent avec brio grâce à la performance de Gary Oldman dans la peau de Winston Churchill. D'aucuns prédisent à M. Oldman l'Oscar du meilleur acteur pour donc sa prestation dans ce film, Darkest Hour. Le travail de Gary Oldman, ça c'est dans les contres, éclipse tout le reste. Le film possède de beaux attributs, scénario, mise en scène, interprétation, mais on ne décèle pas d'équilibre entre eux, comme c'est le cas chez d'autres concurrents tels Dunkerque ou Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Parce qu'on est en 2018, un roi, un premier ministre, des députés, des soldats, des hommes blancs, il n'y a que ça dans le film. D'ailleurs, on remarque que les deux actrices de soutien, Lily James et Kristin Scott Thomas, n'ont pas fait le plein de sélections dans les galas. C'est moins en raison de la qualité de leur jeu que de la présence écrasante d'Oldman. Cette fois, c'est signé André Duchesne ou Duchesne. Dunkirk ou Dunkerque. Pour, parce qu'il est magnifiquement réalisé et que c'est un véritable tour de force cinématographique, Dunkirk est, à mon sens, le film en lice aux Oscars le mieux réalisé. Christopher Nolan a limité les effets spéciaux à dessein. Il a tourné sur place, à Dunkerque, avec des avions et des navires de guerre d'époque authentique. Dunkirk est une super production d'auteur qui a eu un succès public contrairement au Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. C'est un suspense inventif, brillamment déconstruit, immersif, qui tient en haleine malgré une quasi-absence de dialogue. Contre, plusieurs films de guerre ont déjà été primés aux Oscars. Et de très bons. Dunkirk risque d'en souffrir, d'autant plus qu'il s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, un conflit couvert de long en large par Hollywood. C'est aussi une proposition froide qui laisse peu de place à l'émotion et n'est pas aussi marquante que d'autres films à cet égard. Enfin, Dunkirk a pris l'affiche l'été dernier et s'est peut-être un peu fait oublier depuis par les membres votants de l'Académie. Et toujours avec le Parce qu'on est en 2018, Christopher Nolan est un homme blanc, blond, aux yeux bleus. Son film ne met pratiquement en scène que des hommes blancs. On lui a d'ailleurs reproché de ne pas avoir mis en scène des combattants d'origine indienne qui ont pourtant été plusieurs en 1940 à attendre d'être évacués par l'armée anglaise à Dunkirk. Bref, il n'y aura pas d'effet 2018 pour ce film. C'est Marc Cassivy maintenant qui s'exprime là-dessus. Get Out, Chantal Guy. Pour, avec un budget de 5 millions, Jordan Peele a réussi tout un exploit avec son premier film, amasser plus de 250 millions au box-office mondial et se tailler une place de choix parmi les finalistes aux Oscars. Tout ça avec un film d'horreur qui propose un angle inédit dans le genre, le racisme. Inspiré par une blague d'Eddie Murphy qui se demandait pourquoi les Blancs dans les films d'horreur ne sortent jamais de la maison quand ils sont menacés, peu importe par quoi, Jordan Peele fait ressentir peut-être plus que n'importe quel film de conscientisation le malaise d'être noir en Amérique. Il a carrément renouvelé le genre et contribué à une année record pour le cinéma d'horreur en 2017. Contre, le principal obstacle à une victoire de Get Out est surtout qu'il s'agit d'un film d'horreur, justement ce que l'Académie récompense très rarement en général. Si ce film est diablement efficace et qu'il cause la surprise par son thème inexploité jusqu'alors, il n'en demeure pas moins un film qui n'a pas les ambitions esthétiques ni le budget des autres films sélectionnés. Parce qu'on est en 2018, Get Out est une formidable réponse à la controverse mot-clic Oscar So White qui dénonçait l'absence d'artisans noirs dans les sélections. Ajoutons que Jordan Peele, aussi finaliste comme meilleur réalisateur, est seulement le cinquième cinéaste noir de l'histoire à recevoir cet honneur aux côtés de John Singleton, Lee Daniels, Steve McQueen et Barry Jenkins. Lady Bird, les pour, les contre, et parce qu'on est en 2018, cette fois Luc Boulanger. pour, parce que rarement a-t-on vu l'histoire d'une relation mère-fille aussi bien racontée au cinéma. Greta Gerwig réalise le portrait doux amer d'une adolescente qui cherche sa place dans le monde, sur fond d'une Amérique post-11 septembre qui a perdu ses illusions. Le récit se passe à Sacramento en 2002. Ce film est drôle, touchant et illustre avec justesse la complexité des relations humaines. Ironiquement, Lady Bird sera peut-être pénalisée par la grande justesse de son propos. Hollywood aime les histoires avec des courbes et des rebondissements dramatiques, des descentes en enfer suivies de rédemption. Ici, Christine, alias Lady Bird, va s'inscrire dans un cours de théâtre à New York et nous laisser sur une fin ouverte, comme la vie. Et aussi parce que c'est un premier film d'une cinéaste indépendante qui aura d'autres occasions de remporter un Oscar. Parce qu'on est en 2018, écrit et réalisé par une femme avec deux actrices dans les rôles principaux. Lady Bird est la preuve que les femmes ne doivent pas hésiter à prendre le contrôle de leur histoire et de leur projet. En écrivant son scénario, Greta Gerwig ne pensait pas pouvoir le réaliser toute seule. Elle a eu le courage de passer à l'acte, a-t-elle dit en entrevue, « Tant mieux pour nous ». Et on poursuit cette fois avec le film Phantom Thread. C'est Chantal Guy qui signe le pour et le contre, ainsi que parce qu'on est en 2018, parce que ce film est une splendeur de tous les instants, aussi maniaque dans le détail que l'est Reynolds Woodcock, le couturier le plus célèbre de Londres au cœur de l'histoire. Il s'appelle Reynolds Woodcock. On retrouve ce trio d'enfer qu'est Paul Thomas Anderson à la réalisation, Daniel Day-Lewis dans le rôle principal et Johnny Greenwood à la bande sonore, les mêmes qui nous avaient donné le chef-d'œuvre There Will Be Blood. Et on trouve aussi une grande révélation qui les domine tous, Vicky Creeps, interprète d'Alma, la muse et maîtresse de Woodstock. De Woodcock. Contre, Phantom Thread n'a pas le souffle épique de There Will Be Blood. Et s'il a été célébré unanimement par la critique, il n'a pas vraiment rejoint le grand public. Parce qu'on est en 2018. Après Me Too, on trouve intéressant que dans ce film, le grand Daniel Day-Lewis, qui a annoncé que ce serait son dernier rôle, ne cesse de rapetisser devant la puissance de Vicky Creeps, qui rayonne et l'éclipse littéralement. The Post, André Duchesne, pour un an après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, le film ne pouvait pas tomber plus à point pour rappeler l'importance des médias dans nos démocraties. Il était temps aussi de faire un film sur cette histoire qui, avant le Watergate, a mis le quotidien The Washington Post sur la carte des grands médias américains. Contre, The Post raconte les dessous d'une enquête journalistique du point de vue des patrons, alors que deux œuvres comparables, All the President's Men et Spotlight, le faisaient du point de vue des journalistes. Parce qu'on est en 2018, si le film dévoile le sexisme autour du personnage de Catherine Graham, Meryl Streep, il aurait pu aller plus loin. Ensuite, The Shape of Water, cette fois Marc-André Lucier, pour, fort de ses 13 citations, soit plus que tout autre candidat, ce film arrive aux Oscars avec une longueur d'avance et une ribambelle de prix remportés un peu partout, notamment au Producer Guild Awards. Guillermo del Toro a de son côté été sacré par la Directors Guild of America, depuis le lancement à la Mostra de Venise où il a obtenu le Lion d'or, la cote de Shape of Water a toujours été constante. Contre, certains admirateurs du cinéaste mexicain spécialisé dans les drames fantastiques estiment qu'il s'est un peu assagi et que The Shape of Water est un peu trop accessible à leur goût. Parce qu'on est en 2018, construite comme une ode à toutes les différences, cette fable campée au beau milieu de la guerre froide prend une nouvelle résonance à une époque où l'on se questionne beaucoup sur les notions d'identité et d'intolérance. Et je termine avec Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Maintenant, c'est Nathalie Petrovski. Pour « Rarement a-t-on vu un western contemporain saisir avec autant d'humour, d'âpreté et de violence l'Amérique blanche et ouvrière d'aujourd'hui ». Contre, le film est écrit et réalisé par Martin McDonagh, un étranger européen qui n'est pas issu du sérail hollywoodien et qui, de ce fait, manquera d'alliés. Parce qu'on est en 2018, à une époque qui carbure à l'extrémisme et à la simplification à outrance, la complexité des personnages de ce film, qui peuvent aussi bien se montrer odieux que d'une immense humanité et grandeur d'âme, fait du bien. Je ne sais pas si vous avez reconnu cette musique signée Ennio Morricone, compositeur de génie. 1989, c'était la musique du film Cinéma Paradiso. Alors, semaine de relâche, allons-y avec les propositions d'activités du Journal de Montréal. 17 activités pour la relâche. La relâche scolaire s'amorce officiellement aujourd'hui, donnant congé aux élèves de la métropole durant toute une semaine. Mais quoi faire pour les occuper? Le journal vous propose 17 activités à faire en famille pour profiter pleinement de ces journées loin des bancs d'école. C'est signé Bruno Lapointe et Zachary Goudreau. On commence avec vendredi 2 mars. Anne, la maison au pignon vert. Après Sherlock Holmes et D'Artagnan, c'est au tour du personnage classique d'Anne Shirley de reprendre vie sur scène grâce à la compagnie de théâtre Advienne que pourra. Pour l'occasion, le célèbre récit de Lucy Maud Montgomery a été revu et adapté par Frédéric Bélanger et met en vedette entre autres Philippe Touzel, vu dans la comédie musicale Footloose l'été dernier. Ce soir, 19h30, à la Maison de la culture Claude Léveillé. L'hôpital des poupées. Il naît, entre parenthèses presque, il n'est jamais trop tôt pour initier les enfants aux arts de la scène. Jusqu'à dimanche, la maison théâtre convie les spectateurs de 4 ans et plus à l'hôpital des poupées, l'adaptation québécoise du roman philosophique de Dole Hospital d'Anne Margaret Sharp, un bon point de départ pour aborder certaines questions essentielles avec les tout-petits. Jusqu'à dimanche à la maison théâtre sur Ontario. Samedi, demain, FIFEM, les meilleures réalisations du cinéma jeunesse mondial seront présentées pendant toute la semaine de relâche, faisant voyager petits et grands aux quatre coins du monde dans le cadre de la 21e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal, qui se termine le 11 mars. Dès l'âge de 2 ans, les enfants sont conviés à différentes projections de courts et longs métrages d'ici et d'ailleurs, tels que Nelly et Simon, Mission Yeti, Le Petit Spirou et Charlotte a du fun, c'est le plus récent film signé Sophie Lorrain qui reçoit de bonnes critiques, du 3 au 11 mars au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc et au musée des Beaux-Arts. Dimanche 4 mars, Cabane à sucre, signe de l'arrivée du printemps, les becs sucrés pourront déguster dès dimanche de la tire sur la neige et des crêpes avec sirop d'érable dans la cabane à sucre du Parc Nature du Cap-Saint-Jacques dans l'ouest de l'île de Montréal, au 20-099 boulevard Gouin-Ouest, 20099 Gouin-Ouest pour aller à la cabane à sucre dimanche. Youpa Kadabra. Dimanche, Fredo le magicien portera ses illusions sur la scène de la salle Marcelin Champagnat de Laval. Mais il ne sera pas seul. Pour l'occasion, il tentera d'apprendre les rudiments de la magie à son complice Théo, tête d'affiche de la chaîne Youpa. Évidemment, l'exercice sera plus cocasse que fructueux. À 15h, c'est à la salle, je vous le rappelle, Marcelin Champagnat à Laval. Lundi, 5 mars, congé. Papillon en liberté. L'événement annuel Papillon en liberté est l'occasion idéale de plonger dans l'été en entrant dans les serres du jardin botanique où la température frôle parfois les 30 degrés pour admirer des centaines de papillons provenant de divers pays à travers le monde et en apprendre plus à leur sujet. C'est au 4101 rue Sherbrooke-Est, Papillon en liberté. Cinéma à petit prix. Votre budget est plutôt serré? Pas de problème. Dès lundi et ce jusqu'à vendredi, la chaîne Cinéplex propose une sélection de films à petit prix. Les familles pourront donc voir Détestable Moi 3, Ferdinand, Le bébé boss et Merveilleux sur grand écran, chacun présenté en matinée au coût de 3 $ dans différents cinémas. Du 5 au 9 mars dans les cinémas Cinéplex. Oui, j'avais pas fini, Mathieu. Alors, allons-y avec d'autres activités, d'autres suggestions. Mardi 6 mars, puisque c'est la semaine de relâche pour plusieurs, à partir de d'aujourd'hui, Village d'hiver, ça c'est le mardi 6 mars. Il sera possible d'admirer des sculptures sur glace et de patiner sur le sentier réfrigéré et glacé du village d'hiver du Parc olympique qui demeurera ouvert chaque jour pendant la semaine de relâche au 4141 avenue Pierre de Coubertin, métro Pie-Neuf. On voit le village d'hiver du Parc olympique. Programme double à la Tohu. Les écoles font relâche, mais la Tohu, mais pas la Tohu. L'établissement de la rue Jarry propose un programme double composé de Pss-Pss et Petit Pied à grignoter. Le premier est un duo de clowns récompensé à 15 reprises à travers le monde, tandis que le deuxième allie théâtre et cirque afin de mettre en scène un conte pour toute la famille, du 6 au 10 mars à la Tohu. Mercredi 7 mars, une journée au musée. De nombreuses activités ludiques sont prévues au musée McCord pendant toute la semaine de relâche, telle la présentation de courts-métrages pour enfants et la lecture de contes traditionnels revisités. C'est au métro, métro McGill, 690 rue Sherbrooke-Ouest. Jeudi 8 mars, tout le monde joue. Petits et grands se réuniront au Centre Pierre Charbonneau dans le quartier Hochelaga pour découvrir plus de 500 jeux de société hors de l'ordinaire dans le cadre de la 3e édition des Jeux de société de Montréal, qui se déroule jusqu'au 11 mars, 3000 rue Viau-Montréal, métro Viau. Les routes ignorées. Après des séjours remarqués en France et en Ukraine dans les derniers mois, la compagnie montréalaise Ombre Folle est de retour au Bercail. Jeudi, petits et grands pourront assister à leur spectacle, Les routes ignorées, une œuvre où marionnettes, ombres et livres animés prendront vie pour relater le parcours d'un jeune garçon et d'un loup à travers la Russie. C'est le 8 mars, 13h30, à l'auditorium de l'école Paul-Gérin-Lajoie d'Outremont. Vendredi 9 mars, patiner dans le Vieux-Port, c'est sur le bassin Bon Secours dans le Vieux-Montréal, au métro Champ de Mars. Même si la température dépasse de quelques degrés le point de congélation, la grande patinoire extérieure réfrigérée du Vieux-Port de Montréal demeurera ouverte jusqu'au 11 mars. Samedi 10 mars, atelier de cirque. La station de métro Place des Arts se transformera en véritable école de cirque alors que des ateliers de pyramide, de jonglerie et de fabrication d'accessoires de clowns seront offerts gratuitement dans l'espace culturel Georges-Émile Lapalme, métro Place des Arts. Dimanche 11 mars, au zoo, même l'hiver. Alors, des animations spéciales sont prévues afin de découvrir de nombreuses espèces d'animaux de la faune québécoise, dont la loutre de rivière. C'est à Sainte-Anne-de-Bellevue. 21-125 chemin Sainte-Marie, ligne d'autobus 411 Ouest, du rattrapage télé et l'univers de Co-Une au musée au MAC, donc le musée d'art contemporain. Vous ne vous ennuierez pas. Profitez-en donc aussi pour vous poser un peu. Écoutez Canal M, ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est François Brodeur qui sera là la semaine prochaine, lundi-mardi. Je fais un petit peu relâche, deux jours. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde, au choix musical et au thé. Il m'a apporté un bon thé vert. Je suis gâtée. Merci à vous. Bon week-end et à très bientôt.